Bonjour Justin Weiss.
Bonjour.
La deuxième édition du Forum de Paris pour la paix va s'ouvrir aujourd'hui et se prolongera jusqu'à mercredi. Pour rappeler les objectifs de ce rendez-vous qui rassemble des personnalités de premier plan venues du monde entier, est-ce qu'on peut les résumer aux questions très schématiquement de gouvernance et de multilatéralisme?
Oui, c'est bien ça. En fait, on a toute une série de problèmes qui sont des problèmes globaux qui dépassent les frontières et aucun pays ne peut seul s'attaquer à ces problèmes-là. Et donc l'idée du Forum de Paris sur la paix, c'est que à ces problèmes globaux, il faut des solutions globales. Et donc, il faut mettre ensemble les États, évidemment, ils restent au cœur du système, les organisations internationales, mais aussi beaucoup d'acteurs privés, les entreprises, les fondations, les ONG, évidemment, toute l'énergie citoyenne et encore beaucoup d'autres groupes.
Est-ce que vous avez l'impression que le monde a changé depuis la première édition l'an dernier ?
Alors oui, il me semble que le monde va dans le sens de ce qu'on essaye de faire, c'est-à-dire là où il y a de l'activité positive, c'est là où ces différents acteurs peuvent coopérer, c'est là où ils peuvent s'allier pour lutter contre, je sais pas, la cybersécurité, la migration, etc. On a eu plusieurs au cours de l'année passée, on a eu plusieurs exemples de ce qu'on appelle nous cette espèce de multilatéralisme par le bas, si vous voulez, c'est-à-dire la possibilité non pas de s'en remettre uniquement aux institutions traditionnelles qui restent très importantes, l'ONU, les organisations régionales, mais aussi justement de se servir de cette énergie des citoyens, des fondations, des institutions qui travaillent ensemble au-delà des schémas traditionnels.
Est-ce que vous pouvez travailler dans le multilatéralisme avec des représentants d'ONG américaines, un pays où l'unilatéralisme va grandissant sous la présidence de Donald Trump?
Alors, vous savez, c'est tout le paradoxe du Forum de Paris sur la paix, c'est que une part énorme de cette activité est faite en effet par nos amis américains, par des ONG, par des fondations. Il y a beaucoup d'activités au Forum. Je crois que c'est la première nationalité représentée et il y a 6000 personnes quand même. Il y en a 6000 l'an dernier, il y en a 6000 cette année. Simplement, il n'y a personne de l'administration républicaine. Et on voit là tout le paradoxe de ce pays qui reste très engagé dans le monde et souvent pour le meilleur, mais en effet dont l'administration ne souhaite pas, et c'est un euphémisme, s'engager pour le multilatéralisme.
Alors la spécificité du Forum de Paris, c'est de ne pas seulement réfléchir, mais d'essayer d'être dans le concret, en étudiant, en choisissant et en soutenant des projets sur un certain nombre de thèmes qui sont prédéfinis, qui sont la paix et la sécurité, le développement, l'économie inclusive, les nouvelles technologies, l'environnement et la culture et l'éducation. Une centaine de projets sont présentés tous les ans. Est-ce qu'il y a, cette année, donc, sur ces thèmes, certains qui attirent plus de projets que d'autres ?
Oui, en fait, c'est ça. On n'a pas vraiment de thème unifiant. En revanche, on a des priorités, c'est-à-dire qu'on voit, on essaye de mettre en valeur et de faire avancer surtout certains thèmes qui nous sont apportés. Alors, prenons la biodiversité, par exemple. On sait que près d'un million d'espèces sont menacées d'extinction. Et alors, on a plusieurs activités. Par exemple, le PNUD vient présenter un projet qui s'appelle La Part du Lion. La Part du Lion, c'est l'idée de donner un peu leur droit à l'image aux animaux. C'est-à-dire chaque fois qu'une entreprise se sert de l'image d'un animal sauvage pour ses besoins commerciaux, cette entreprise est invitée à verser sa part, son écho à un fonds qui sert justement à la protection de la biodiversité et de ces animaux-là. Voilà, alors c'est un petit truc, mais en effet ça prend beaucoup d'ampleur et compte tenu de l'ampleur de l'activité commerciale et publicitaire, ça, voilà. Donc ça, c'est un exemple. Et sur ce thème de la biodiversité, il y en a beaucoup d'autres. En particulier, on invite l'équipe chinoise de négociation de la COP 15. La COP 15, ça sera le grand rendez-vous de l'an prochain à Kunming, en Chine, où ça sera un petit peu, si vous voulez, la COP 21 pour la biodiversité. La COP 21, souvenez-vous, c'était l'accord de Paris 2015. Et bien, là, on invite un an auparavant cette équipe chinoise qui permet de préparer le sommet, de prendre de nouer des alliances avec les ONG, les entreprises, les États qui sont présents et ainsi de faire avancer un peu, cette cause de la biodiversité.
Les questions environnementales sont de toute façon de plus en plus prégnantes aujourd'hui dans nos sociétés. Il y aura demain un débat intitulé Alerter ne suffit plus, sortir du statu quo environnemental, c'est un objectif très ambitieux. Vous pensez avoir les moyens de faire bouger les choses, de provoquer un changement d'attitude sur ce sujet?
Alors c'est très amusant que vous preniez celui-là parce que oui, parce que c'est un bon exemple. En fait, on l'a pas mis dans le titre. Vous savez, il y aura 80 panels et sessions. Ça n'est pas une conférence, le Forum de Paris sur l'environnement. On travaille sur les projets, ils sont présentés, mais évidemment, on en discute de ces projets et du coup, c'est quand même un peu une conférence parce qu'on discute. Alors là, de quoi est-ce qu'on va parler? On va parler de la question du plastique, dont on sait bien que c'est un des grands problèmes, en particulier pour les océans. Et en fait, ce sera une discussion
entre... Certains projettent qu'il pourrait y avoir, à terme, plus de plastique que de poissons dans les océans.
Exactement, et surtout sous forme de microparticules, ce qui est évidemment encore plus nocif. Alors, là, on a deux exemples de solutions qui sont mises en avant. On a une activiste qui est formidable, qui est Melati Vijen, qui vient de Bali, qui vient d'Indonésie, et qui, avec sa sœur, avait créé cette ONG qui s'appelle Bye Bye Plastic Bags. Ils avaient essayé de bannir les plastiques, non seulement de Bali, mais aussi d'Indonésie. Et donc, voilà, ça c'est le... Elle a 16 ans, donc c'est un activisme jeune. Hein, c'est un peu la Greta indonésienne, on pourrait dire. Sauf que, en effet, elle agit, elle ne fait pas que l'alarmisme. Et on l'a fait dialoguer avec un représentant d'une alliance gigantesque de grandes entreprises. Alors, pour le coup, qui, elles, produisent du plastique. L'Alliance to End Plastic Waste, l'alliance pour en finir avec le gâchis du plastique, des grandes entreprises comme Dow Chemical, comme Exxon, Total et d'autres, qui se sont mises ensemble pour réduire tout le plastique excessif, toutes les façons dont le plastique finit dans la mer avec des moyens considérables. Et donc on fait dialoguer ces deux acteurs différents avec des acteurs publics pour voir comment avancer.
Vous avez évoqué le jeune âge donc de cette jeune femme et précisément il y aura un débat intitulé « Laissons l'avenir leur appartenir, la jeunesse dans la prise de décision politique ». Vous pensez que cette mobilisation des jeunes à laquelle on assiste, notamment sur les questions environnementales, vous pensez que c'est un phénomène nouveau avec lequel il va falloir compter, qu'il va falloir mieux prendre en compte?
Oui, mais alors, vous voyez, c'est un peu paradoxal parce qu'en fait, les jeunes, c'est une catégorie dont on sait bien qu'elle existe, qu'il faut prendre en compte, mais qu'on a un petit peu de mal à saisir, parce qu'il y a les jeunes urbains, il y a les jeunes ruraux, il y a les jeunes de tel ou tel parti, il y a les jeunes de tel ou tel groupe, etc. Et souvent, on ne sait pas très bien. Un des projets qu'on avait primé l'an dernier et qu'on a aidé, c'est une sorte de centre qui se fait entre l'Union européenne et l'Union africaine. Et ce qui s'est passé, c'est que ces jeunes se sont regroupés pour présenter des projets, mais aussi pour orienter certains des fonds jusqu'à 10 millions de développement de l'Union européenne pour donc des projets concrets, des fonds de développement, en disant voilà, de notre point de vue à nous, disons jeunesse africaine européenne, voilà les projets sur lesquels il faut miser pour l'avenir. Et donc là, on leur a donné une voix. Alors c'est pas nous, hein, nous on a aidé ce projet-là. On leur a donné une voix pour orienter des financements et faire en sorte de prendre en compte cette voix de la jeunesse.
L'un des objectifs que se fixe le Forum de Paris pour la paix à partir de cette deuxième édition, c'est d'examiner ce qu'il en est, ce que sont devenus les projets que vous avez soutenus dans l'édition précédente, avec une commission de suivi précisément. Où qu'est-ce qu'on donnait ce de l'an dernier? Est-ce qu'ils ont abouti? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des résultats concrets?
Alors oui, il y a des résultats. On a une... c'est une expérimentation. Hein. On voulait voir ce qu'on pouvait faire pour... Alors, pas seulement incuber, mais aussi développer, pousser, mettre en avant ces projets. Des projets très différents. En effet, Antarctica 2020 vise à créer des aires marines autour de l'Antarctique. Là, on a pu les aider notamment par... Ils sont une sorte de lobbying politique, en particulier auprès de la Chine et de la Russie, qui sont les deux pays qui, pour l'instant, résistent un peu à cette idée de créer davantage d'aires marines protégées autour de l'Antarctique. Ou, très différent, un projet kényan, Kumekucha, qui vient de Mombasa, et qui est une méthodologie très novatrice pour, en gros, réconcilier les communautés après des traumatismes type génocide, guerre civile et autres. Et on a pu les aider à grandir, à rencontrer des institutions qui les aident à se financer et aussi à reproduire leur schéma ailleurs.
Bon, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais l'éducation sera aussi évidemment au cœur des échanges, puisque c'est un facteur très important d'émancipation, notamment dans les pays en développement. Merci, Justin Weiss.
Merci, Frédéric.
Bonne journée à vous.